Attention, attention, le podcast des petites frousses y contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
Ben bonsoir les garçons,
bonsoir.
C'est notre premier épisode ensemble, hein, entre boys et moi. On a Grégory.
Bonsoir.
Qui d'habitude n'est pas là.
Puis là,
il est arrivé. Ouh. J'aimerais connaître votre opinion officiellement. Où est-ce que vous vous situez par rapport aux extraterrestres avant qu'on se lance plus loin? Allez-y.
C'est excitant.
OK.
Mais ton... c'est...
Dis-moi en plus.
C'est sûr que ça existe.
Ben oui, c'est sûr.
Parce qu'on n'est pas les seuls à vivre à une forme d'intelligence seule dans dans l'univers. C'est impossible.
Est-ce que il y a vraiment quelqu'un qui peut voyager jusqu'ici? Je sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres choses. Là.
Ben oui.
Qu'il y a un autre... C'est indéniable. Mais là, des vaisseaux...
Ah ouais, t'es pas sûr des vaisseaux?
Ben, t'sais, j'aimerais vraiment ça y croire. Mais...
OK, de ce que je comprends, tu crois aux extraterrestres, pas nécessairement aux ovnis. C'est ce que tu me dis.
C'est du cas par cas, tu sais.
Ah.
Ça relève encore de la légende,
tu sais. Ah, OK. Fait que c'est sceptique.
Plus loin, ouais. Je suis ouvert, par contre, à l'idée.
C'est très
c'est,
bien.
C'est juste
j'apprécie.
Ça.
J'apprécie. Donc, Greg, c'est un oui. Toi, c'est un.
Ça dépend. J'ai un gars de fait.
Puis moi, c'est oui, là. Ils ont toujours été ici. Moi, je suis complètement à l'opposé.
Ouais, ça, j'aime là, l'hypothèse qu'ils ont toujours été ici.
Ils ont toujours été ici.
Puis on dort dessus comme des cages.
Je trouve que c'est le fun comme concept.
Ouais,
là.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'il y a une forme d'intelligence quelque part.
C'est sûr.
Mais à savoir s'ils viennent avec des petits vaisseaux, ça,
ben
ça
oui,
je
pense.
C'est un peu trop folklorique, tu sais. Les petits vaisseaux...
C'est juste... Je voulais juste comme, tu sais, faire un préliminaire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est des hommes en noir.
Oh yes!
Oh.
Ça, je suis down.
Ouais, on va parler des hommes en noir. Fait que ce que je vais faire, je vais vraiment vous expliquer c'est quoi un homme en noir, genre le comportement, physiquement. Je vais vous parler de trois témoignages, en tout cas, de gens qui disent avoir été en contact avec des hommes en noir, puis après, on va théoriser de qu'est-ce que c'est.
Là, on parle bien là, des Men in Black, comme le film, là.
Exactement. Les hommes en noir ont été grandement popularisés en 1997 grâce au film à succès du même nom, comme on l'a dit il y a genre 15 secondes, mettant en vedette Will Smith et Tommy Lee Jones. Bien que ce soit qu'une œuvre de friction... De friction... Les œuvres de friction, c'est après minuit que ça joue. Bien que ce ne soit que des films de fiction, les véritables hommes en noir font partie des histoires devenues depuis les années 1950. Ils sont pas mal moins charismatiques. Les hommes en noir ou les Men in Black sont des agents top méga secrets qui ont pour objectif d'empêcher la propagation d'informations au grand public concernant les objets volants non identifiés et ou les extraterrestres.
Ah.
On soupçonne que c'est pour éviter la panique générale à travers la communauté, mais il y a peut-être d'autres raisons qu'on sait pas où on soupçonne ça. Aucune piste solide n'indique pour qui ils travaillent ni d'où ils proviennent. Il y a quelques hypothèses qu'on va en parler un peu plus tard. Les hommes en noir se présentent à l'improviste, puis ils menacent, harcèlent et terrorisent tous ceux qui ont été témoins d'ovnis ou qui font des recherches sur la vie extraterrestre. Ces individus-là sont presque toujours identiques dans chaque témoignage. Ils sont vêtus d'un complet, d'une cravate et de chaussures noires. Ils portent une chemise blanche en dessous. Bien fidèles à ce qu'on voit dans les films, ils sont parfois cachés sous des lunettes de soleil et un chapeau noir. C'est très 1950.
Est-ce que le flashouilleur est présent ou c'est juste dans le film?
J'ai aucune idée de quoi tu me parles. Je n'ai pas vu les films. Parfois, les gens décrivent les hommes en noir comme étant très grands. D'autres disent qu'ils ont une petite taille. Puis ils se présentent en... Ils se déplacent plutôt en voiture noire et sont souvent en groupe de deux ou de trois. Quand ils se présentent, s'ils se présentent, ils vont donner une carte d'affaires complètement blanche des deux côtés. Puis les prochains traits que je vais vous nommer sont presque tous pareils dans chacun des témoignages. Ils ont un teint très pâle, comme un dessous de pied. Ils sont chauves, ils n'ont pas de sourcils, ils sont imberbes comme des jeunes prépubères, ils n'ont pas de traits, ils ont la peau lisse comme une fesse de bébé, on dirait que leur tête c'est un melon de miel, puis ils sont très minces. C'est rare que les gens voient leurs yeux parce qu'ils portent des lunettes de soleil, mais quand c'est possible de les voir, les gens distinguent qu'ils sont très foncés, comme deux petites billes noires.
Là j'ai déjà une petite théorie, là. C'est-tu des aliens?
Bon, on n'ira pas là tout de suite.
Un petit Sherlock Holmes.
Crème, t'as-tu mis ton chapeau de détective?
J'ai mis... deux chapeaux. Mon chapeau d'aluminium
oui.
Et mon chapeau de détective.
C'est bon, ça.
Je suis couvre-cheffé.
Leur comportement est froid, sans expression, puis leur voix est nasale et mécanique. C'est ça qui revient dans les témoignages des gens. Dans la culture populaire, il y a les films Hommes en noir, évidemment, dans X-Files, les gens trouvent qu'il y a des similarités avec l'agent Smith dans la Matrice.
Oui.
Puis il y a une série aussi qui s'appelle le projet Blue Book, que j'aimerais vraiment écouter, qui est sur Hysteria.
Hysteria.
Le premier témoignage qui met en vedette les hommes en noir date de juin 1947, dans l'État du Washington, aux États-Unis. C'est connu sous le nom de l'incident de l'île Morée, qui se trouve à Tacoma. Un homme nommé Harold Dahl.
Qui?
Harold Dahl.
Harold Dahl.
OK.
D-A-H-L.
H-L?
Ben, c'est comme la compagnie de livraison. Ah non, c'est DHL. D-H-L.
Dahl.
Dahl.
C'est ça.
Qui avait raison, c'est-tu? Hein? Un homme nommé Harold Dahl part faire du patrouillage sur son bateau de 50 pieds avec son fils Charles et le chien de la famille Sparky. Le bateau était environ à 5 km de l'île Murray. Quand ils ont aperçu 6 objets volants circulaires dans le ciel qui les survolaient silencieusement. Les soucoupes volantes étaient d'une trentaine de mètres de diamètre et avaient la forme d'un beigne.
Ouais. Un beigne.
Puis il y avait une ouverture d'environ 7 ou 8 mètres de diamètre au centre. Harold Dahl a réussi à prendre des photos. L'un des objets volants semblait être en difficulté. D'étranges débris métalliques sont tombés de ce dit objet volant qui était en difficulté. Durant leur chute, des fragments ont accroché le bras du fils d'Harold Dahl, Charles, et un autre a heurté le chien Sparky, qui lui n'a malheureusement pas survécu.
Oh, ça c'est plate.
Après s'être réfugié sur l'île Murray, Harold a collecté des morceaux de débris sur son bateau, qui eux aussi avaient endommagé le bateau. Il les avait montrés à son superviseur, Fred Chrisman, un pilote de l'armée de l'air à la retraite. Le lendemain de l'incident, Harold Dahl reçoit la visite d'un homme en complet noir. L'individu invite Harold à un diner local pour discuter de ce qui s'était passé près de l'île Murray. Les deux discutent et puis la conversation prend une drôle de tournure. L'homme sans nom agissait comme s'il était au courant de qu'est-ce qui s'était passé le jour d'avant près de l'île Murray. Et puis l'homme a dit à Harold... « Ce que je viens de vous dire prouve que j'en sais beaucoup plus sur votre expérience que vous ne voudrez y croire. »
Oh!
Fait que là, Harold s'est fait avertir fortement. Il ne devrait plus jamais parler de ça à personne. Mm-hmm. Jamais parler de ce qu'il avait vu à personne. Sinon, de terribles choses arriveraient à lui et à sa famille.
Mm. Tu vois, dans le film, c'est là qu'il aurait sorti le flashouilleur, puis on n'en aurait pas reparlé.
Ah, ben ça c'est...
Fait...
Oh, c'est l'affaire qui fait perdre la mémoire.
C'est le crayon.
J'aimerais ça d'en avoir un.
Ouais, moi aussi.
Après l'étrange rencontre entre l'homme en noir et Harold Dahl, les photos prises le jour de l'incident avaient été corrompues. Ça servait pas à rien. Aucune preuve.
Mm. Ah, mais t'as peu, là. Wow. Les photos, ils ont été compromis.
Ouais.
Après cette rencontre-là.
Ouais.
Mais le gars, il les avait.
Ben ouais.
Mais c'est quoi qui est arrivé? À un moment donné, il s'est réveillé dans son lit, puis « Ah, si, les photos sont pas bonnes? »
Ben, de ce que moi j'ai cru comprendre, c'est qu'il est pas allé au diner avec ses photos. Okay. Mais quand il est revenu chez eux, ses photos étaient plus bonnes.
OK, OK, OK.
Comme okay. Si un deuxième partenaire de mon noir était allé fucker le chien à la cachette.
On est en quelle année, là?
1947.
Que c'était pas des corrupt files d'ordinateur.
Non. Aujourd'hui, cette histoire est classée comme étant un gros canular, inventé de toutes pièces, parce qu'Harold et son patron, Fred Chrisman, auraient vendu l'histoire des soucoupes volantes à leur ami journaliste. Mais quelque chose de bizarre s'est produit. La chose étrange qui s'est produite, c'est qu'après avoir eu connaissance de l'histoire d'OVNI près de l'île Morée, deux spécialistes de l'armée de l'air américaine avaient décidé d'investiguer. Ils ont récupéré une boîte de preuves qu'avait Harold Dahl, contenant les photos, qui étaient plus bonnes, puis les débris de l'un des objets volants qu'il avait pris. Là, ces deux personnes-là, les deux agents, les deux spécialistes de l'armée de l'air américaine, ils ont pris l'avion en route vers San Francisco où ils examineraient les preuves. Ils sont pas rendus, les deux agents. Parce que le 1er août 1947, leur avion B-25 a pris feu en chemin et s'est écrasé en tuant les deux agents.
Mais dans le fond, si l'armée s'est fait clencher, c'est pas eux.
Ben c'est pas là, c'est ça.
C'est les chums en complet.
Ah.
Ils sont plus importants. Donc, c'est peut-être pas... des membres du gouvernement américain,
exactement.
Comme on peut le prétendre.
On va pouvoir élaborer un peu plus sur ce que tu émets comme théorie, lors des théories, car c'est une théorie. Le journal Tacoma Times a rapporté que l'avion aurait pu être saboté ou abattu pour empêcher l'inspection de sa cargaison. Une enquête du FBI aurait eu lieu, et durant cette enquête, Harold Dahl et son superviseur Fred Chrisman auraient tous deux avoué que l'histoire des 6 objets volants était fausse et que les fragments tombés du ciel seraient en réalité de l'aluminium.
Mais oui, mais crise d'aluminium, ça tombe pas du ciel pareil.
Ben, c'est ça pareil.
C'est quoi,
mais qu'ils auraient pris ça chez eux et fait « Ah, check ça, ça vient du ciel! »
OK, ouais.
On peut choisir d'être sceptique face à l'incident de l'île Murray. Mais quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que ce qui s'est passé sur l'île Murray, ou près de l'île Murray plutôt, c'est arrivé quelques semaines avant l'écrasement de Roswell au Nouveau-Mexique, qui est le cas, je pense, le plus connu d'OVNI sur la planète.
Mm-hmm.
Moi, je pense que Harold Dahl puis Fred Christman, ils se sont fait persuader de dire que c'était pas ça, pour, finalement.
Ça fait du sens.
Mais genre, pour que l'armée quand même s'intéresse, parce que...
Ouais, il y avait quelque chose.
Il y avait quelque chose.
Mm.
En avril 2007, le Musée des mystères à Seattle a fait une analyse des débris récupérés sur les lieux du crash de l'avion B-25. Les découvertes préliminaires ont indiqué que le reste des minéraux étaient probablement des fragments de météores.
Oh!
Il n'y a pas eu d'autres découvertes par après qui est ressorti au public, par exemple. Fait que ça se peut que c'est de la fucking bullshit. Deuxième histoire, c'est une des plus détaillées. La deuxième rencontre avec un homme en noir s'est déroulée un soir de septembre 1975 avec le docteur Herbert Hopkins, qui avait 58 ans à l'époque. Docteur Herbert Hopkins était consultant sur une affaire d'enlèvement d'OVNI dans le Maine, puis était hypnotiste. Fait que tu sais, il hypnotisait les gens pour se rappeler de leur enlèvement.
Fait que c'est un charlatan, dans le fond.
Oh non, ça te m'a pas suicidé ce soir, toi. Un soir, le docteur Herbert Hopkins, il reçoit un appel provenant d'une cabine téléphonique. Comment il a su que c'est d'une cabine téléphonique? Je le sais pas. C'était un homme au bout du fil. Cet homme prétendait être le vice-président d'une organisation du New Jersey qui avait pour but d'enquêter sur les objets volants non identifiés. L'homme a demandé à Dr. Hopkins s'il était seul. Dr. Hopkins affirme que oui. Sa femme et ses enfants étaient au cinéma puis ne seraient pas de retour avant la fin de la soirée. L'homme a ensuite demandé s'il pouvait rendre visite à Dr. Hopkins pour discuter du cas d'enlèvement sur lequel ce dernier travaillait. Dr. Hopkins a accepté. Fait que là, Dr. Hopkins, il s'est levé de sa chaise pour allumer la lumière de l'entrée. Puis il remarque que l'homme avec qui il avait parlé au téléphone, il montait déjà les marches d'escalier.
Mmh.
Il était vite. Dr. Hopkins a trouvé ça étrange, puisque la boîte téléphonique la plus proche était à quelques rues de sa maison. Aucune voiture n'était présente dans la rue non plus. Petit rappel, on est en 1976, il n'y a pas de téléphone cellulaire.
Mais c'est peut-être son chum, là. L'un qui a appelé, puis l'autre, qui se ressemble tout, de toute façon. Il était déjà là.
Ça se peut, ça.
Mais son chum n'a pas pu l'appeler à lui.
Ouais, mais c'est des... Il se parle d'autre façon, là.
Mm. L'homme était vêtu de noir, de la tête aux pieds. Il est entré dans la maison sans même se présenter. Dr. Hopkins, il n'a pas été atteint par son impolitesse sur le coup, parce qu'il était trop distrait par l'habillement et l'allure de son visiteur. Il était mince. Très mince, même maigre. Sa taille de 5 pieds 10 pouces faisait juste accentuer sa minceur. Son habit avait l'air trop grand au niveau des bras et des jambes, mais était parfaitement ajusté ailleurs, comme on peut voir chez un mannequin dans un magasin de vêtements.
Ils ont l'air de ça?
Ben oui, ils sont toujours mal ajustés. Checkera à place l'eau.
Ouais, je vais checker.
C'est ta mission.
Oui.
La tête de l'homme était solidement attachée. Pas une fois, il a hoché ou bougé sa tête. Vous comprenez?
Immobile.
Mm-hmm. Immobile.
Il n'y a pas de coup.
Il y a un coup, mais il bouge pas. Un peu Barbie style.
Ouais.
Ça bouge carré. Pour ce qui est de son visage, je vais vous citer la description du Dr. Hopkins lui-même, tirée du livre « Homme en noir, la terreur secrète parmi nous » de Gray Barker. Donc, le Dr. Hopkins dit « Ce n'est ce que lorsque... »
Ce n'est ce que lorsque...
Ce n'est que lorsqu'il a enlevé son chapeau noir que j'ai réalisé que l'homme semblait complètement imberbe, sans sourcils, sans cils. Il n'y avait ni trace de barbe, même s'il m'apparaissait être dans la fin trentaine, début quarantaine. Ses oreilles et son petit nez étaient bas. Ses lèvres étaient d'un rouge rubis vif et contrastaient avec son teint blanc de craie. Je ferme les guillemets. Tiré du livre « Homme en noir, la terreur secrète parmi nous ». Petit Kindle, là, ça a coûté 10 piastres. L'homme en noir s'est installé à la table et s'est mis à poser des questions sur le cas d'enlèvement sur lequel Dr. Hopkins travaillait. Dr. Hopkins a ensuite remarqué que son invité n'ouvrait presque pas la bouche pour parler et que sa bouche était plutôt une fente. Dr. Hopkins a déclaré par la suite ne pas avoir vu de dents dans la bouche de l'homme.
C'est un costume. C'est un pantin. Chris, il était fucké en esti, là. Mettons que t'es assis là, avec quelqu'un à une table, puis sa bouche bouge pas, puis il y a une fente, puis genre, dans la manière de faire Chris, c'est pas normal, là, t'es qui toi?
T'es-tu correct?
Ça va.
La prononciation des mots de l'homme en noir était impeccable. Il y avait aucun accent, mais il semblait avoir du mal à assembler des phrases, un peu comme moi. L'homme en noir était sans émotion, complètement détaché de ses propres mots. La seule chose qui semblait bouger dans son visage lorsqu'il parlait était sa bouche.
Sa fente.
Sa petite bouche de rubis.
Oui.
Sa petite fente couleur rubis.
Il n'y avait pas ses sourcils qui bougeaient. Il n'y avait pas ses joues. Il n'y avait aucun sourire. Fait que c'est juste son petit bisou. Durant la conversation, Le mystérieux visiteur s'est essuyé la bouche et le rouge vif qui s'y trouvait s'est étalé comme du rouge à lèvres.
Oh.
L'homme a demandé à Dr. Hopkins de sortir une pièce de cuivre de ses poches et de la mettre dans la paume de sa main. Dr. Hopkins s'exécute, sort un sou noir et le visiteur lui dit « Regardez attentivement le sou. Tu vois bien, là. Quelle sorte de monde tu fais rentrer chez vous? » En une question de seconde, le sou a changé de couleur, est passé de l'argent au bleu, puis est devenu flou et s'est finalement évaporé.
Mmh. Eh, arrête.
T'as dit. C'est...
Il a fait la magie avec une scène noire.
Moi, rendu là, le bonhomme, je l'aurais crissé dehors. T'auras pas mon argent.
L'homme en noir a demandé à Dr. Hopkins s'il savait qui étaient Barney et Betty Hill. Et s'il savait de quoi Barney Hill était mort. Je sais pas si vous savez un peu c'est quoi le cas de Barney puis Betty Hill. C'est bon, un cas vraiment
ça
populaire.
Ça me dit quelque chose.
Ouais, c'est vraiment populaire. C'est un couple américain qui s'est fait enlever sur la route dans les années 1961, 15 mm-hmm. ans avant l'histoire de Dr. Hopkins. Ça a vraiment été médiatisé, ils ont été hypnotisés. C'est vraiment, vraiment intense. Puis c'est ça, c'est un des cas les plus populaires d'enlèvement d'extraterrestres.
Ça pourrait être un bon sujet de podcast, ça.
Mm-hmm. Oui, on a eu des demandes. Là, ça, le mort noir, il demande si c'est qui ces deux gens-là, puis de quoi Barney Hill est mort. Parce que le gars, il est mort par après, il meurt, le monde. Hein? Dr. Hopkins a répondu qu'il pensait que Barney Hill avait succombé après une crise de cœur. L'homme en noir lui répond qu'il a tort et dit « Monsieur Barney Hill n'avait plus de cœur, tout comme vous n'avez plus votre sou noir. »
Oh!
Chris.
T'as frondé. Il y a du front tout le tour de la tête, puis c'est vrai. L'homme en noir lance un avertissement à Dr. Hopkins. Il subirait le même sort que celui de Barney Hill s'il ne détruisait pas toutes ses notes de recherche sur le cas d'enlèvement d'OVNI sur lequel il travaillait. L'homme en noir a ensuite quitté les lieux brusquement. Il disait qu'il manquait d'énergie.
Oh!
Drôle
d'affaire. Ça, c'est bizarre.
C'est bizarre.
Mmh. Ils sont supposés être faits fort, tu sais.
Ben, apparemment, il avait pas mis sa plug.
Il a manqué, ouais, c'est ça, il a manqué quelque chose.
Il a manqué du. Un véhicule aux lumières éblouissantes l'attendait dans l'entrée. Dr. Hopkins était très nerveux et effrayé à la suite de cette visite. Il a suivi le conseil de son invité et a supprimé toute sa documentation en lien avec les ovnis en les garrochant dans le poêle à bois. Littéralement.
Non, ouais.
Ouais, il a dit.
Moi, je mange la marde. On advienne que pour.
L'homme en noir n'est jamais revenu le voir par la suite, mais des choses étranges sont arrivées. Il y avait des marques dans l'allée qui a été retrouvée, mais il était au centre de l'allée, là où les roues d'une voiture pourraient pas être. Les enfants du Dr. Hopkins ont remarqué des gens étranges rôder autour de leur maison. Dr. Hopkins éprouvait aussi beaucoup de difficultés avec son téléphone. Sa ligne téléphonique était souvent pleine de statique. Les patients du Dr. Hopkins ne réussissaient pas à le rejoindre et recevaient des messages disant que la ligne était hors service. Sa compagnie de téléphone a confirmé que quelqu'un trafiquait sur sa ligne, mais n'avait aucun moyen de déterminer comment ni par qui.
Oh, c'est louche.
C'est bizarre. Dr. Hopkins a décidé de contacter l'organisation du New Jersey pour laquelle disait travailler l'individu, l'homme en noir. À sa grande poursuise, what?
Sa quoi? Sa poursuise.
Sa poursuise, là.
Sa grande poursuise.
À sa grande surprise, il a découvert que l'organisation qu'il disait être le vice-président, elle avait jamais existé.
Oh.
Puis là, il faut se poser la question. Là, je comprends que c'est une belle histoire, bien embellie, bien enrobée, mais pourquoi Dr. Hopkins, un docteur qualifié et respecté, inventerait une histoire comme ça? Genre, ça serait quoi son motif? Je peux bien croire qu'on est sceptique, là, mais...
Il cherchait à faire de la publicité pour son propre gain.
Mais il a perdu tout l'ouvrage qu'il avait fait sur son cas d'OVNI, tu sais. Il les a mis dans le poêle.
C'est supposé être une source fiable.
Oui, quand même.
Parce que c'est un médecin. On sait que tous les médecins sont blancs comme neige.
Pour Québec, en tout cas.
Comment ça?
Oui, je te parlais de docteur Turcotte.
Ouais.
En tout cas, troisième témoignage. C'est déroulé au Canada.
Ouh!
Oh.
Il y a des hommes en noir canadiens, nice.
Ouais, puis s'excuse quand il arrive.
Hey, sorry, hein? Mais ça fait du sens qu'il y en ait au Canada. Parce que le Canada, c'est un esti gros pays qui couvre beaucoup de territoire.
OK.
Donc, okay. S'il y a des phénomènes... Vu qu'on couvre un grand espace.
Mais je peux officiellement dire que c'est faux. C'est aux États-Unis qu'il y en a le plus d'observations d'OVNI reportées. Puis je pense savoir pourquoi. C'est parce que c'est là qu'ils font le plus de tests aériens. C'est plus dense aussi comme population. Fait que sont seulement plusieurs personnes appelées pour le même avion. Je suis qui vous jugez.
Ouais. Mais c'est sûr que sur 300 millions, il y a plusieurs crayons qui sont plus ou moins bien aiguisés.
C'est sûr.
Il y a beaucoup de pogo qui sont pas très dégelés dans le bois.
Ah, c'est ça qui arrive.
Il y a une coupe de patins qui serait due pour aller se faire aiguiser.
Bon, on les a toutes dit.
Ben, on a fait le tour de table est fait.
Oh, OK.
Le 14 octobre 2008, vers 22h, le directeur et le gardien de sécurité de l'hôtel Sheraton à Niagara Falls, en Ontario, ont aperçu un objet volant non identifié. L'OVNI avait une forme triangulaire. Il était noir et mesurait 240 pieds de long. Il y avait trois lumières blanches, c'est gros.
C'est quand même gros, là. Très gros.
Chris, c'est vrai,
pareil. C'est un beau triangle.
C'est très gros.
Un immense
Doritos. Un gros triangle. Prend beaucoup de salsa.
Il avait trois lumières blanches de chaque côté et une grosse lumière rouge au centre.
Ça fait drapeau canadien en crise, mais OK.
L'OVNI était à une hauteur d'environ 500 pieds. Le vaisseau se déplaçait lentement d'est en ouest, de la partie fer à cheval des chutes du Niagara vers l'hôtel. L'objet émettait une lumière blanche qui, elle, était dirigée vers l'eau. Tout à coup, la lumière a changé de direction et était maintenant dirigée vers les deux employés de l'hôtel.
Que c'est l'armée canadienne.
Ah oui, c'est-tu.
Après 10 minutes, l'OVNI s'est volatilisé.
Oh!
Selon les recherches que je suis en train de faire sur un autre épisode...
Ah, t'as fait tes recherches.
J'ai fait mes recherches. Okay. J'ai checké sur Google. Puis Google m'a dit... Non, mais je suis en train de lire deux livres en parallèle. Puis ça dit que les vaisseaux, c'est pas quelque chose de mécanique ni d'électrique. C'est comme quelque chose de biologique, en tout cas.
Non, ça marche au diesel, calice.
Chris, pas un 45 pieds, c'est moi. On parle de triangle qui flotte dans l'air.
Dans le fond, c'est juste un voyage d'école d'extraterrestres.
Ouais, peut-être. Mais pourquoi qu'ils viennent tout le temps la nuit?
Mais je pense qu'on les voit juste plus la nuit.
Ouais, peut-être.
Peu de sens.
Puis une semaine après l'observation, Shane Sauvard, le directeur de l'hôtel Sheraton, était seul dans le stationnement de l'hôtel. C'était le matin. Il a encore une fois aperçu un objet volant non identifié. Celui-ci, la même forme que celui de la semaine précédente, mais il se trouvait à une plus haute altitude. Cette observation-là n'était pas unique, c'était la deuxième fois du mois et la quatrième fois depuis le début de l'été 2008. Fait qu'il y avait comme une vague d'ovnis à cet été-là.
OK.
À Niagara Falls, en Ontario.
Mm-hmm.
7 mois plus tard, le 15 mai 2009, l'hôtel Sheraton s'est vu accueillir deux hommes étranges.
Oh.
Ils se sont présentés à la réception et ont demandé à parler au directeur de l'hôtel, Shane Sauvard. Un employé a informé les deux hommes de son absence. Les visiteurs ont été décrits par le personnel de l'hôtel comme cela. C'était deux hommes à l'apparence étrange. Ils avaient exactement la même taille et les mêmes visages. Ils avaient tous les deux la peau extrêmement pâle. Ils portaient les mêmes vêtements et le même chapeau noir. Les hommes n'avaient pas de cheveux, pas de sourcils, aucune pilosité. Lorsqu'ils ont parlé, ils n'avaient aucune émotion. Ils avaient l'air d'être dans une transe hypnotique. Un des membres du personnel a dit que les hommes ne clignaient même pas des yeux. Le lendemain, une des membres du personnel, grandement dérangée par cette visite, a tout raconté à Shane Sauvard. Intriguée, Shane Sauvard a décidé d'aller vérifier les enregistrements de la caméra de surveillance.
Bonne idée.
Et les caméras du hall d'entrée de l'hôtel avaient capturé les hommes en noir. On pouvait les voir arriver et quitter l'hôtel.
Oh, shit.
Les hommes en noir ont jamais retenté de prendre contact avec Shane Sauvard et ne sont plus jamais retournés à l'hôtel Sheraton. Voulez-vous voir le vidéo?
Oui.
Oui.
Je vais le mettre sur Instagram. Mais le vidéo, on s'entend que... Moi, il y a genre 4 pixels.
C'est clairement Will Smith. Sont un peu pas bons, par contre. T'es y penser, là, c'est supposé.
Peut-être qu'ils se sont dit, genre, « Hey, notre technologie va genre brouiller les caméras. »
Mais non.
Puis finalement, la technologie était down ce jour-là. Peut-être une petite panne de serveur, mais ils ne savaient pas.
Peut-être.
Fait que c'était les 3 témoignages que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur les hommes en noir, mais il y en a, genre... 100 autres.
Ouais, c'est ça.
Il y en a plein.
Il faut qu'il y en ait plus.
Il y en a beaucoup.
Mais on pourrait en faire une autre partie éventuellement de d'autres témoignages parce qu'il y en a tellement des spéciales. Il y en a qui n'ont aucun sens. Il y en a que tu sais bien trop que c'est pas vrai. Là.
Mais j'aimerais ça qu'on s'intéresse assez à eux pour qu'ils viennent ici et qu'on l'essaye. Au pire, on répond pas, c'ti.
Oh, c'est geekable.
T'es suscité un intérêt assez important pour qu'eux se déplacent à nous.
OK.
On aurait la preuve.
On pourrait les inviter.
J'ai de la misère à. Embarqué à 100%. C'est tellement facile à défaire. Mm-hmm. Même le tape qu'on a vu, je veux dire, c'est juste deux messieurs avec des chapeaux melons. Là.
Mettons que les preuves sont très minimes.
Il y en a beaucoup de preuves au fil des années, depuis longtemps.
Donc, théorie. Première théorie, c'est de la bullshit. Parce qu'il n'y a aucune preuve fiable sur les hommes en noir à part des témoignages de gens qui arrivent, que tu sais, ils disent « Ah, oh, mais j'avais trouvé de quoi de vraiment incroyable sur les extraterrestres au point où des hommes sont venus me menacer, mais les preuves, je les ai plus, hein, ouais, parce que je les ai détruites. » Mais c'est ça. Fait que la théorie, c'est que c'est pas vrai. Puis tu sais, les vidéos, comme t'as dit, ça peut être très facilement démenti parce que c'est une vidéo, ça peut être juste deux monsieur, hommes d'affaires, qui ont rentré, ils ont demandé s'il y avait encore une chambre de libre, puis finalement, ils n'avaient pas, ils sont partis. Puis surtout, c'est que les hommes en noir se sont jamais rendus au bout de leurs menaces. Si t'en parles, il va t'arriver ça. Il en parle, il arrive rien. T'sais, en bout de ligne, ils en ont tous parlé, pareil.
Finalement, ouais, c'est ça.
C'est pas coté, là.
Deuxième théorie. Celle-là, elle a du stock. Préparez-vous. C'est des interventions du gouvernement qui travaillent avec la Fédération intergalactique.
Oh, la Fédération intergalactique.
En 2020, l'ancien directeur du programme spatial israélien a fait une révélation qui en a choqué plus qu'un. Dans une entrevue avec le Yediot, qui a ensuite été traduite par le Jewish Press, en fond, c'est un magazine,
mm-hmm.
Le professeur M. Eshed a dit qu'Israël et les États-Unis sont en contact avec un groupe d'extraterrestres depuis des années.
Oh.
Et ce groupe d'extraterrestres ferait partie de la Fédération intergalactique. Ça a passé aux nouvelles, puis ça l'a... Le monde a viré à l'envers. C'est sûr que n'importe qui peut dire ça, puis il passe pour un calice de fou. Faut vraiment voir le CV de M. Eshed, OK? Il a été à la tête du programme spatial israélien de 1981 à 2010... Il a servi dans une unité top secrète, l'unité 81, un peu à la style zone 51. Il a été membre du comité de direction de l'Agence spatiale d'Israël. Il effectuait des recherches sur l'aéronautique, l'astronautique et les satellites. Il est l'ancien président du comité spatial du Conseil national de la recherche et du développement du ministère des sciences, de la technologie et de l'espace. Il a reçu 3 prix. Dont 3 fois le prix de la défense israélienne, qui est le plus grand honneur de la défense civile de l'État d'Israël. Puis les raisons pourquoi il a gagné ces prix demeurent confidentielles. Fait qu'il est quand même assez fiable comme source.
Ouais.
D'après lui, M. Eshed, le président Trump était au courant de tout ça, puis qu'il aurait vraiment eu l'intention de tout déclassifier.
Mais il n'y a pas eu de quoi par rapport à ça?
Donald Trump était supposé déclassifier plein de documents.
Ouais, mais ça s'est pas fait.
Puis c'est ça que M. Eshed dit. La Fédération intergalactique a dissuadé Donald Trump de le faire pour éviter l'hystérie. Fait que c'est pour ça qu'il s'est rien passé puis que Donald Trump aurait rien dit. Ça, c'est selon M. Eshed. Puis il a dit dans une entrevue, « La Fédération intergalactique juge que l'humanité doit encore évoluer avant d'être assez en mesure de comprendre ce qu'est réellement l'espace et les vaisseaux spatiaux. » Fait que le monde a vraiment essayé de le faire passer pour un fou au moment de son entrevue, puis ils ont essayé de faire passer ça pour une farce, un peu à la Don't Look Up. Une porte-parole du Pentagone, qui s'appelle Sue Gu, a refusé de commenter l'entrevue de M. Eshed. Puis le lien avec les hommes en noir, c'est que pour faire fermer la gueule à Trump, la Fédération intergalactique est entrée en contact avec lui, c'est peu importe comment. Pour le reste de la communauté, mettons, moi, je veux un OVNI, mais s'ils veulent m'éviter de parler avec mes preuves, ils vont envoyer quelqu'un. Ce sera pas... Tu sais, je serai pas en contact avec la Fédération intergalactique. Ils vont m'envoyer quelqu'un.
Un représentant.
En théorie, les relations entre le Israël et les États-Unis...
peuvent permettre ce genre de contact.
Ouais, voilà, ils discutent de fédération intergalactique. Absolument. Je suis certain qu'ils ont place dans leurs agendas pour ça. C'est le sujet du jour.
D'autres théories, mais c'est comme une sous-théorie qui connecte les théories ensemble. Qui sont les agents qu'ils envoient? Mettons que c'est le motif, c'est pour éviter l'hystérie, c'est demandé par la fédération intergalactique. C'est qui les agents? Il y a une théorie qui dit que les hommes en noir sont des agents de la CIA. Mais pas des agents du FBI.
OK.
Je vous explique. Aux États-Unis, il y a un projet qui s'appelait le projet Blue Book. Puis c'est le nom d'une série aussi que je vous ai parlé au début. Anciennement, c'était appelé le projet SIGN. Puis c'était une investigation de l'armée de l'air sur les objets volants non identifiés. Ça a duré de 1947 à 1969. Je vous explique un peu c'est quoi avant de tomber dans les hommes en noir puis faire le lien avec eux autres. Mais durant leur investigation, l'armée de l'air a collecté 12 658 rapports d'OVNI, 8 360 photos, 20 bobines de films qui équivaut à 6h30 de temps, là, puis 23 enregistrements audio de témoins. Puis le but du projet Blue Book, très américain, vous allez voir, trouver une explication pour l'ensemble des témoignages d'OVNI, premièrement. Deuxièmement, déterminer si les OVNI représentent une menace pour la sécurité des États-Unis. Troisièmement, déterminer si les ovnis possèdent une technologie avancée que les États-Unis pourraient exploiter. Ils ont quelque chose qu'on pourrait utiliser, genre l'antigravité. Sur les 12 618 rapports d'ovnis, 701 sont restés non identifiés. Fait que c'est quand même beaucoup, je trouve, que t'as 701 choses dans le ciel qui sont apparues, puis tu sais pas comment les expliquer. Puis la majorité ont été expliquées comme étant des déchets dans le ciel, des ballons météorologiques, puis des nuages. Fait que le projet Blue Book avait été déclassifié dans les années 80, mais malgré ça, le gouvernement des États-Unis gardait son contenu scellé. Puis il y a un homme qui s'appelle John Greenwald Jr. Il a déposé une série de requêtes pour que les documents soient rendus publics sous la loi de l'accès de l'information. Puis ça a marché. Puis c'est la CIA qui lui a rendu les documents. Fait que ça montre, tu sais, le CIA avait son implication dans la recherche sur les ovnis.
Ouais.
Depuis 2020, 12 pages du projet Blue Book sont publiques, et tout ça grâce à John Greenwald Jr. Dans les 12 pages auxquelles on a accès, il y a une lettre décrite d'un membre du FBI, mais pas à n'importe quel membre du FBI, c'est William Seal Sessions. C'est le directeur! La lettre date de 1989, le nom de la personne qui a écrit la lettre a été enlevé, puis cette personne-là demandait de l'aide au FBI et demandait qu'il partage des documents sur le sujet des ovnis. Puis un passage bien intéressant que je vous cite, qui dit « L'armée de l'air n'investigue plus les rapports d'ovnis. La clé pour en connaître plus est d'aller au-delà de ce que peut offrir l'armée de l'air et de se diriger vers d'autres agences comme la CIA et le Bureau de la Défense. »
Bien, ils connaissent rien là-dedans.
Mais c'est vrai de ça, dans le fond. Que
ils ont peut-être plus de ressources, par exemple. Money puis manpower aussi.
L'armée de l'air a laissé faire ça en 69, mais la lettre a été envoyée en 89. Il y a comme quelqu'un qu'on sait pas c'est quoi son nom parce que son nom a été enlevé qui voulait continuer à faire la recherche. Fait que le, c'est comme s'il voulait comme redémarrer le projet, mais il demandait à d'autres mondes. Puis il trouvait que l'armée de l'air ne pouvait pas assez offrir d'informations par rapport à ça. Fait que c'est pour ça qu'il s'est tourné vers ces gens-là. Puis là, la personne a continué en disant « Le président Bush, George H. Bush, pas George W. Bush, là, pas juste... »
Non, le premier Bush, Bush père.
Fait qu'en tout cas, le président Bush fut interrogé sur les ovnis et a répondu « Vous croyez tout savoir, mais vous ne savez rien. Comme vous le savez, le président Bush était auparavant lié avec la CIA. » Son commentaire au sujet des ovnis a été enregistré. Fait que ça faisait partie de la lettre envoyée d'une personne dont on ignore le nom au directeur du FBI. Le directeur du FBI, William Steele Sessions, lui a répondu « J'ai discuté de votre demande avec mes collègues et je voudrais d'abord vous expliquer que les enquêtes d'ovnis n'est pas et n'a jamais été la responsabilité du FBI. » Fait que c'est pour ça que le monde pense que si jamais les hommes en noir sont des agents du gouvernement, ben ça serait des agents de la CIA, mais pas du FBI.
Mm-hmm.
Puis pourquoi faire taire les gens? C'est pour pas semer la panique. Puis pourquoi il y aurait l'allure qu'ils ont, c'est imberbe et tout? Pour pas être reconnu, puis pour laisser aucune trace d'ADN durant leur visite.
Ouais,
c'est fort.
Ouais, je comprends.
Très fort.
Fait du sens.
Mais c'est sûr que c'est pas ça, puis je vous explique pourquoi. En février 1967, le colonel George P. Freeman, porte-parole du Pentagone pour le projet Blue Book, a fait une déclaration. La voici. Des hommes mystérieux vêtus d'uniformes de l'armée de l'air ou pourtant des uniformes d'agences gouvernementales ont fait taire plusieurs témoins d'OVNI. Nous avons vérifié un certain nombre de ces cas et ces hommes ne sont en aucun cas liés avec l'armée de l'air. Nous n'avons pas pu découvrir quoi que ce soit sur ces hommes, se faisant passer pour des officiers de l'armée de l'air et des agents du gouvernement. Ces hommes commettent une infraction fédérale. Nous aimerions certainement en attraper un. Malheureusement, quand nous entendons parler d'un cas, nous avons déjà perdu leur piste. Fait que c'est sûr que c'est pas... quelque chose de gouvernemental. Est-ce qu'ils disent ça pour qu'on ferme nos yeux, dans le fond?
Mais peut-être.
Peut-être, mais le ministère de la Défense a déclaré qu'il n'enquêtait jamais sur les cas d'OVNI en personne, mais par téléphone. Fait que s'il parlait à quelqu'un, il n'allait pas se cogner à la porte, là. Il appelait juste « Bonjour, madame, on veut savoir telle affaire. » Puis normalement, il y a une politique pour chaque agence fédérale. Puis quand il se présente quelque part, il faut qu'il se présente. Genre, quand il se présente, faut qu'il se présente.
Physiquement.
Physiquement, là. Genre, je suis du CIA, je suis du FBI, je suis de telle agence. Fait que c'est qui d'abord? Il y a d'autres théories. Le contrôle de l'esprit. J'ai lu que ça se pourrait que les hommes en noir soient des humains contrôlés par la CIA avec le contrôle de l'esprit. On peut démentir ça tout de suite parce que si la CIA aurait su comment contrôler l'esprit dans les années 40 et 50, ils n'auraient pas autant niaisé avec leur MKUltra en 1960.
Ouais, c'est clair.
C'est vrai.
Si jamais vous ne savez pas de quoi qu'on parle, c'est l'épisode 7 de la saison 1, le projet MKUltra.
Excellent épisode.
Sinon, les hommes en noir, ça pourrait être des ufologues. Parce qu'aux États-Unis, il existe le NICAP. Pas le cap du genou, mais genre NICAP, qui est le Comité national d'enquête sur les phénomènes aériens. C'est pas gouvernemental. Puis les gens qui travaillent pour le NICAP sont des chercheurs et ufologues, des anciens militaires, etc. Ils ont été très actifs dans les années 50 et 60. Puis Jim Mosley, c'est un chercheur, auteur et ufologue, il travaillait pas pour le NICAP. Puis il a dit à un moment donné que les agents du NICAP aimaient agir comme une agence gouvernementale et disaient aux témoins d'OVNI de pas parler de ce qu'ils ont vu à personne. parce qu'il voulait avoir l'exclusivité sur les témoignages d'OVNI. Mm-hmm. Fait qu'il allait comme voler l'information, dire « tu parles pas de ça à personne ». Ça explique pas pourquoi ils sont imberbes et compagnie. La théorie qui nous gratte depuis le début, les hommes en noir sont des extraterrestres.
Oh! Mais ils ont une tête de melon.
Si, mettons, on rejoint avec la théorie que c'est une fédération intergalactique, puis que leurs agents qui envoient, c'est les gens, ce seraient des extraterrestres, ça ferait du sens. J'ai lu un petit livre qui s'appelle A Gift from the Stars, écrit par Elena Danan. Elle a dit que les hommes en noir, c'est des êtres cybernétiques, mi-biologiques, mi-mécaniques, des cyborgs. Leur espèce serait nommée les Dracoborgs. Ils travailleraient étroitement avec les reptiliens pour garder les terriens dans l'ignorance face à la possibilité de d'autres vies extraterrestres.
Elle était pas reptilien, là.
Arrête donc, toi.
Là, je débarque. On n'est pas dans une galaxie près de chez vous.
Ça pourrait expliquer pourquoi on les retrace pas. Pourquoi qu'on l'a déguisé. Pourquoi qu'on sait pas trop pour qui travaille. Pourquoi qu'ils parlent drôlement. Pourquoi, comme avec le docteur Hopkins, ils ont dit qu'il manquait d'énergie. Parce qu'on dirait clairement que les hommes en noir sont une imitation manquée des agents de FBI.
On dirait un pantin. C'est trop... La façon qu'ils sont décrits, selon les témoignages, c'est trop évident que c'est pas du monde. Tu sais, tu rentres... Mettons, là, on rencontre quelqu'un comme ça demain matin. Là. Chris, il y a quelque chose qui cloche fort. Là. Ce n'est pas un humain. Même si le pantin bouge tout seul, il y a quelqu'un en arrière du pantin.
Un reptilien. Si,
récemment, est-ce qu'il y a eu des rencontres avec les Men in Black?
T'sais? Oui, sans doute, il y en a, mais tu sais, c'est dur de démêler le vrai du faux. En 1950, c'était pas populaire de dire « Hey, j'ai vu de quoi dans le ciel ». Mais c'est ça les hommes en noir. Mais j'aimerais ça qu'on reparle de d'autres petits cas d'hommes en noir parce qu'il y en a vraiment plein.
Je garde mon troisième œil ouvert.
Qui suis-je pour te dire que c'est vrai ou c'est faux? Mais je pense que c'est une belle phrase pour finir ça. Au revoir. Allez sur Instagram lespetitesphrases.pod.
Bonsoir.
Ah, spring. Nothing like the world progressing towards summer to inspire your own progress. That's what life's all about, in your career, relationships, and your finances. Let's talk about that last one. With the Chime Secured Credit Builder Visa Credit Card, it's easy to start building credit with everyday purchases and regular on-time payments with no annual fees or interest. So your weekly grocery run can feel even more productive, and that morning coffee can taste like a little victory. And if your credit scores grow, so could your opportunities to get lower rates on loans, like for a new ride or finally having a home to call your own. Sounds like progress, right? With Chime's secure credit card, you can start improving your credit scores right away. Get started today at chime.com/build. That's chime.com/build. Chime feels like progress. The Chime Credit Builder Visa Credit Card is issued by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A., members FDIC. Out-of-network ATM withdrawal and OTC advance fees may apply. Terms and conditions apply. Go to chime.com/disclosures for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.